Épilogue. La grotte de la porte. 1. Ils étaient rapides, mais Mial était plus encore. Environ 2 kilomètres au-delà de la fourche du chemin, ils retrouvèrent son fauteuil roulant. Elle l'avait poussé fort, fonçant sur le terrain impitoyable par la force sauvage de ses bras musclés. Elle avait fini par heurter à un rocher saillant, assez fort pour voiler la roue gauche et rendre le fauteuil inutile. Il était déjà difficile de croire qu'elle ait pu arriver si loin. « Putain, comme Alain !» murmura Heidi, examinant le fauteuil, les entailles, les bosses et les éraflures. Puis il releva la tête, mit les mains en coupe autour de sa bouche et cria
« Bats-toi, Susanna ! Bats-toi contre elle ! On arrive !»
Il repoussa le fauteuil et se mit à remonter le chemin sans se retourner pour vérifier que les autres le suivaient.
« Elle ne peut pas aller jusqu'à la grotte, n'est-ce pas ? » demanda Jake. « Je veux dire, sans ses jambes. »«
Je dirais que non. Et toi ?» fit Roland. Mais son visage était sombre et il boitait. Jake ouvrit la bouche pour dire quelque chose à ce sujet puis se ravisa.
« Qu'est-ce qu'elle va chercher là-bas, d'après vous ?» demanda Callahan.
Roland lui adressa un regard étonnamment froid. « Partir ailleurs. J'imagine que vous pouvez le comprendre. Allons-y. »
2. Tandis qu'il approchait de l'endroit où le chemin commençait à grimper, Roland rattrapa Heidi. Lorsqu'il posa la main sur l'épaule du jeune homme, celui-ci se dégagea de son emprise. La deuxième fois, il se retourna à contre-cœur vers son Dean. Roland vit des éclaboussures de sang sur la chemise d'Heidi. Il se demanda s'il s'agissait de celui de Benny, de Margaret ou des deux.
Peut-être vaudrait-il mieux la laisser un peu seule, si c'est Mire.
T'es fou ! C'est de combattre les loups qui t'a desserré un boulon.
Si on la laisse seule, peut-être qu'elle fera sa petite affaire puis qu'elle disparaîtra. Au moment même où il les prononçait, Roland douta de ses propres paroles.
Ouais. Fit Heidi, l'observant de son regard brûlant. Elle va finir sa petite affaire, c'est sûr. C'est-à-dire commencer par accoucher de ce gosse. Et ensuite, elle tuera ma femme.
Ça serait du suicide.
Mais c'est possible, il faut qu'on la suive.
La reddition était un art que Roland pratiquait rarement, mais il l'avait fait avec habileté dans les rares occasions de sa vie où cela s'était révélé nécessaire. Il jeta un nouveau regard au visage pâle et figé d'Edidine, et il pratiqua cet art.
« D'accord, dit-il, mais il nous faudra être prudents. Elle se battra pour ne pas se faire prendre. Elle tuera s'il le faut. Et toi en premier, probablement. »«
Je sais, fit Eddie. »
Il suivit le chemin du regard, environ 400 mètres plus loin, il bifurquait au sud du promontoire rocheux et disparaissait. Puis le sentier revenait vers eux, juste en dessous de l'entrée de la grotte. Cette partie de la montée était déserte, mais qu'est-ce que ça prouvait ? Elle pouvait être n'importe où. L'idée traversa même l'esprit d'Eddie qu'elle n'était peut-être pas là-haut du tout, que le fauteuil accidenté pouvait n'être qu'un leurre, aussi sûrement que les objets des enfants que Roland avait éparpillés le long du chemin des Aloyos.
« Je peux pas le croire. Il y a 1 million de trois rats dans cette partie de la Cala, alors si je commence à croire qu'elle peut être dans chacun d'eux... »
Callahan et Jake les avaient rejoints et se tenaient là, observant Eddie.
« Allons-y. Je me fiche de savoir qui elle est, Roland. Si à 4 hommes en pleine forme, on peut pas rattraper une femme sans jambes, on ferait bien de raccrocher nos armes tout de suite. Ça suffira pour aujourd'hui. »
Jake sourit faiblement.
« Je suis touché. » Tu viens de m'appeler un homme.
Que ça ne te monte pas à la tête, rayon de soleil. Allons-y.
3.
Eddie et Susanna se considéraient comme mari et femme, mais ils n'avaient pas vraiment eu l'occasion de sauter dans un taxi et de foncer chez Cartier lui acheter un solitaire et une alliance. Autrefois, il avait eu une belle bague au lycée. mais il l'avait perdue dans le sable, à Coney Island, l'été de ses 17 ans, l'été de Mary Jean Sobieski. Pourtant, lors de leur équipée au bord de la mer Occidentale, Eddie avait découvert son talent de tailleur de bois. La petite poule mouillée avec ses marionnettes aurait dit le grand sage et éminent junkie. Et Eddie avait sculpté à sa bien-aimée un magnifique anneau en saule vert aussi léger que l'écume, mais solide. Susanna le portait entre ses seins, au bout d'une lanière de cuir. Ils le trouvèrent au pied du sentier, toujours accroché à la lanière. Eddie le ramassa, le contempla d'un air sombre pendant quelques instants, puis se le passa autour du cou et le mit sous sa chemise.
« Regardez !» fit Jake.
Ils se retournèrent. Juste à côté du chemin, sur un carré d'herbe maigre, ils aperçurent une trace. Ni humaine, ni animale. Trois sillons de roues disposés comme celles d'un tricycle d'enfant. Qu'est-ce que c'était que ça ?
« Allons-y !» lança Eddie, en se demandant combien de fois il l'avait dit depuis qu'il s'était mis à sa recherche.
Il se demanda aussi pendant combien de temps il le suivrait encore, s'il continuait à dire ça. Peu lui importait, il avancerait jusqu'à ce qu'il la retrouve et jusqu'à y laisser la vie. C'était aussi simple que ça. Ce qui l'effrayait le plus, c'était le bébé, celui qu'elle appelait le petit gars. Et s'il s'en prenait à elle ? Et il avait dans l'idée que c'était exactement ce qu'il ferait.
« Eddie !» C'était la voix de Roland.
Eddie le regarda par-dessus son épaule et lui fit le geste d'impatience du pistolero, le moulinet de la main qui voulait dire « on y va ». Roland lui montra les traces. « C'était un genre de moteur.
T'en as entendu un ?»«
Non. Alors t'en sais rien. »«
Pourtant je le sais. »
Quelqu'un lui a envoyé une monture. Quelqu'un ou quelque chose.
T'en sais rien, bordel !
Andy a pu lui laisser un véhicule, dit Jake. Si quelqu'un lui en a donné l'ordre.
Qui aurait pu lui dire de faire une chose pareille ? Cria Eddie d'une voix râpeuse.
Finley, pensa Jake. Finley Otego, qui qu'il soit. Ou peut-être Walter. Mais il ne dit rien, Eddie était déjà assez abattu comme ça.
Elle est partie, affirma Roland. Il faut que tu te fasses à l'idée. Va te faire foutre !
Lança Eddie d'un ton hargneux. Puis s'engageant dans le chemin qui montait.
Allons-y !
4. Pourtant, au fond de lui, Eddie savait que Roland disait vrai. Il attaqua la montée sans grand espoir, mais avec une détermination proche du désespoir. À l'emplacement du rocher éboulé, où le passage était presque obstrué, ils trouvèrent un véhicule abandonné, avec trois roues pneumatiques et un moteur électrique qui ronronnait toujours. Un même continu. Pour Eddie, ce gadget ressemblait à ces trucs tout-terrain branchés qu'on trouvait chez Abercrombie & Fitch. Il avait un accélérateur sur la poignée et un frein de l'autre côté. Il se baissa et lut l'inscription gravée dans celle de gauche. « Frein Malaxe par North Central Positronics ». À l'arrière du siège du tricycle se trouvait un coffre. Eddie fit basculer le couvercle et ne fut pas surpris le moins du monde d'y trouver un pack de 6 boîtes de Nozala, la boisson préférée des guignols avertis partout dans le monde. Il manquait une des boîtes. Elle avait eu soif, bien sûr. Toute cette précipitation, ça donnait soif. Surtout quand on était en plein travail.
« Ça vient de cet endroit de l'autre côté du fleuve ?» murmura Jake. « Du Dogan. Si j'étais sorti par derrière, je l'aurais vu garer. J'en aurais même vu tout un escadron, probablement. Parierait que c'est un coup d'Andy. »
Eddie dut bien admettre la logique du raisonnement. Le Dogan était manifestement un avant-poste, sans doute antérieur à l'installation des habitants actuels et détestables de tonnes foudres. C'était exactement le genre de véhicule pour patrouiller dans le secteur, compte tenu du terrain.
Depuis ce poste d'observation près du rocher, Eddie voyait le champ de bataille où ils avaient vaincu les loups par le plomb et le plat. Ce segment de la route de l'Est était tellement noir de monde qu'il lui fit penser au défilé de masses pour Thanksgiving. Toute la cala était là, réunie pour faire la fête. Et comme Eddie les haïssait tous en cette seconde.
« Si ma femme a disparu, c'est à cause de vous, espèce d'enfoiré dégonflé. » C'était stupide, incroyablement méchant de sa part.
Pourtant, cette pensée lui procura une certaine satisfaction haineuse.
Comment c'était dans ce poème de Stephen Crane qu'ils avaient lu au lycée ? « Je l'aime parce qu'il est amer et parce que c'est mon cœur. »
Quelque chose dans ce goût-là. Pas tout à fait, fallait pas chipoter. Roland se tenait à présent près du tricycle abandonné et ronronnant, et si c'était bien de la compassion, ou pire, de la pitié qu'il voyait dans les yeux du pistolero, eh bien il pouvait la garder. « Allons-y les gars, trouvons-la !»
5. La voix qui les accueillit cette fois-ci lorsqu'ils pénétrèrent dans la grotte de la porte était celle d'une femme qu'Eddie n'avait jamais rencontrée, bien qu'il eût entendu parler d'elle. « Si fait, beaucoup, grand merci. » Et il la reconnut immédiatement.
« Elle est partie, espèce de balourd pervers !»
brailla Réa Duqueus.
« Elle est allée faire son affaire ailleurs, tiens tuite !» Et quand son bébé cannibale sortira de là, il croquera sa mère en remontant depuis la chatte. Si fait, tu peux me croire.
Elle éclata de rire du parfait rire grinçant de la sorcière.
Pas de petit lait pour celui-là, le petit vorace. Celui-là prendra de la viande. La ferme !
Hurla Eddie dans les ténèbres.
La ferme, saloperie de fantôme !
Et contre toute attente, le fantôme obéit. Eddie balaya la grotte du regard. Il aperçut la fichue bibliothèque à deux étages de Tower, des premières éditions sous verre, grand bien leur en face, mais pas de sac métallique rose estampillé l'antre de quille. Pas de trace de la boîte sculptée en bois fantôme non plus. La porte dérobée était toujours là, ses gonds toujours accrochés au vide. Mais elle avait à présent l'air étrangement terne. Elle n'était pas seulement dérobée, mais oubliée. Rien qu'un autre débris inutile d'un monde qui avait changé.
« Non !»
fit Eddie.
« Non, je ne l'accepte pas. Son pouvoir est toujours là, le pouvoir est toujours là !»
Il se tourna vers Roland, mais Roland ne le regardait pas. Si incroyable que ça pût paraître, Roland étudiait les livres. Comme si sauver Susanna commençait à l'ennuyer sérieusement et qu'il se cherchait de la lecture pour tuer le temps. Eddie saisit Roland par l'épaule et le fit pivoter.
« Que s'est-il passé, Roland ? Est-ce que tu le sais ?»«
C'est pourtant évident, » répondit Roland.
Callahan l'avait rejoint. Seul Jake, qui se retrouvait dans la grotte de la porte pour la première fois, s'attardait à l'entrée. Elle a pris son fauteuil aussi loin qu'elle a pu, puis elle a rampé jusqu'au pied du sentier, ce qui est un exploit pour une femme qui est probablement déjà en travail. Au début du sentier, quelqu'un, probablement Andy, comme l'a suggéré Jake, lui avait laissé un véhicule.
« Si c'est Slightman, je retournerai le tuer de mes mains !»
Roland secoua la tête. Pas Slightman. Mais Slightman était forcément au courant, pensa-t-il. Ça n'avait probablement aucune importance, mais il n'aimait pas plus les détails inexpliqués que les tableaux accrochés de guingois sur les murs.
Hé, frérot, désolé de te dire ça, mais ton bon coup s'est fait trucider.
Intervint Henry Dean depuis les profondeurs de la grotte.
Il n'avait pas l'air désolé, mais plutôt en train de jubiler. Ce foutu truc l'a bouffé jusqu'aux cheveux.
Il s'est juste arrêté une seconde avant d'attaquer le cerveau, le temps de recracher ses dents.
La ferme !
Hurla Eddie.
La meilleure nourriture pour le cerveau, c'est encore le cerveau, tu sais, reprit Henry sur un ton savant et mielleux. Le délice des cannibales aux quatre coins du monde. C'est un sacré petit gars qu'elle a là, il dit. Mignon, mais loufoin.
Silence, au nom de Dieu!
Cria Callahan, et la voix du frère d'Eddie se tut. Pour l'instant du moins, toutes les voix se turent. Roland poursuivit sa recherche comme si rien n'était venu l'interrompre. Elle est venue ici, elle a pris le sac, elle a ouvert la boîte pour que la 13e noire lui ouvre la porte. Ah, Mia, je veux dire. Pas Susanna, mais Mia, fille de personne. Et alors, toujours avec la boîte ouverte, elle a traversé. De l'autre côté, elle a refermé la boîte, refermant du même coup la porte. La refermant contre nous.
Non, fit Eddie en saisissant le bouton de porte en cristal avec ses facettes géométriques. Il ne voulut pas tourner. Il ne tourna pas d'un iota.
Des ténèbres s'éleva la voix d'Elmer Chambers.
Si tu avais fait plus vite, fils, tu aurais pu sauver ton ami. C'est ta faute.
Et il se tut.
Ce n'est pas réel, Jake, dit Eddie en passant le doigt sur la rose.
Le bout de son doigt revint poussiéreux, comme si la porte dérobée était restée là, dérobée et inutilisée pendant des siècles.
Ça ne fait qu'amplifier le pire de ce que ça peut trouver dans ta propre tête.
Je vous ai toujours détesté, sale culé de cul blanc!
Cria Detta sur un ton triomphal, depuis les ténèbres, au-delà de la porte.
Je suis bien content d'être débarrassé de vous!
Comme ça, par exemple, fit Eddie en pointant le pouce en direction de la voix. Jake hocha la tête, pâle et pensif. Pendant ce temps, Roland était retourné à la malle de travail.
Roland!
Appela Eddie en essayant de camoufler l'irritation qu'il ressentait, ou du moins de l'édulcorer d'une pointe d'humour. Ce fut un fiasco total.
« Ce qu'on raconte t'ennuie, ou quoi ?»«
Non. Alors j'aimerais bien que tu arrêtes de fixer ces livres et que tu m'aides à trouver un moyen d'ouvrir cette foule.
Je sais comment l'ouvrir, »
répondit Roland. « La première question, c'est « Où va-t-elle nous emmener maintenant que la boule a disparu ?» La deuxième question, c'est « Où veut-on aller ? Là où va Mia ou là où Tower et son ami se cachent de Balassar et de ses amis ?»«
On va chercher Susanna !»
s'écria Eddie.
« Tu as écouté deux secondes les saloperies que débitent ses voix ? Elles disent que c'est un cannibale ! Ma femme va peut-être donner naissance à une espèce de monstre cannibale sur le champ, et si tu crois qu'il y a quoi que ce soit de plus important que ça, la tour est plus importante,
répliqua Roland. Et quelque part, derrière cette porte, il y a un homme dont le nom signifie tour, un homme qui possède un certain terrain vague sur lequel pousse une certaine rose.
Eddie lui jeta un regard incertain. Jake et Callahan firent de même. Roland se tourna de nouveau vers la petite bibliothèque. Elle avait un air étrange au milieu de ces ténèbres rocailleuses.
« Et il possède aussi ses livres, » dit Roland d'un air songeur. « Il a tout risqué pour les sauver. »«
Oui, parce que c'est un enfoiré d'obsédé !»«
Pourtant, toutes choses servent le cas. » Et suive le rayon, dit Roland en choisissant un volume sur le haut du tas. Eddie vit qu'il avait été placé à l'envers, ce qui ne ressemblait pas du tout à Calvin Tower. Roland tenait le livre entre ses mains tannées et sillonnées de rides, semblant se demander à qui le donner. Il regarda Eddie, regarda Callahan, et donna le livre à Jake.
« Dis-moi ce qui est écrit sur la couverture. Les mots de votre monde me font mal à la tête. Ils arrivent jusqu'à mon œil, mais quand je tends mon esprit vers eux, la plupart m'échappent de nouveau. »
Jake ne prenait pas attention à ce qu'il disait.
toute son attention était fixée sur la couverture noire avec son image d'une petite église de village dans le coucher du soleil. Callahan s'était approché pour mieux voir la porte qui se dressait au milieu de la grotte lugubre. Le garçon finit par relever les yeux.
« Mais, Roland, est-ce que c'est pas la ville dont nous a parlé le père Callahan ? Celle où le vampire a brisé la croix et lui a fait boire son sang ?»
Callahan fit soudain volte-face.
« Quoi ?»
Jake leva le livre sans dire un mot. Callahan le prit, le lui arracha presque des mains.
« Salem Slot, lut-il. Un roman de Stephen King. »
Il se tourna vers Eddie, puis vers Jake.
« Ce nom vous dit quelque chose, à l'un ou à l'autre ? Il n'est pas de mon époque ? Je crois pas, en tout cas. »
Jake secoua la tête. Eddie fit d'abord de même, puis il semble avoir quelque chose.
« Cette église, dit-il, elle ressemble à la salle du conseil. On dirait presque sa sœur jumelle.
Elle ressemble aussi au temple méthodiste d'East Stoneham, construit en 1819,
dit Callahan.
Et il me semble que cette fois, nous nous retrouvons avec des triplés. »
Mais même à ses propres oreilles, sa voix paraissait lointaine, aussi vide que les fausses voix qui remontaient en flottant des confins de la grotte. Tout à coup, il se parut faux à lui-même, plus réel. Il se sentit 19.
6. « C'est une blague, » lui assura une voix dans un recoin de son esprit. « C'est forcément une blague. La couverture de ce livre dit que c'est un roman. » Alors, puis, une idée le frappa, et il en ressentit une bouffée de soulagement. C'était du soulagement conditionnel, mais c'était mieux que rien du tout. Cette idée, c'était que parfois les gens écrivaient des histoires inventées, se situant dans des lieux réels. C'était ça, à n'en pas douter. C'était forcément ça.
Allez voir page 119, lui conseilla Roland. J'ai pu en déchiffrer une partie, mais pas tout. Pas tout à fait assez.
Callahan trouva la page et lut à voix haute.
Au début de son séminaire, un ami du père.
Il s'interrompit et ses yeux filèrent sur le reste de la page.
« Continuez, dit-il. Mon père, continuez, ou je le lis moi-même. »
Doucement, Callahan reprit sa lecture.
« Un ami du père Callahan lui avait donné un petit morceau de tapisserie blasphématoire qui, à l'époque, lui avait arraché un fou rire, mais qui lui avait paru plus vrai et moins blasphématoire à mesure que passaient les années. Mon Dieu. Donnez-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer ce que je peux changer, et la chance de faire la putain de différence. »
Le tout en caractère gothique, avec un soleil levant en fond.
Maintenant qu'il se tenait devant la tombe de Danny Glick, ce vieux credo lui revenait.
La main qui tenait le livre faiblit. Si Jake ne l'avait pas rattrapé, il aurait sans doute dégringolé sur le sol caillouteux de la grotte.
« Vous en aviez un, pas vrai ?»
demanda Eddie.
« Vous aviez un petit cadre qui disait ça. »
« C'est Freddy Foyle qui me l'avait donné, » dit Callahan dans un murmure. Au séminaire, et Danny Glick, c'est moi qui officiais ces obsèques, je crois vous l'avoir dit. C'est là que tout a basculé pour moi. Mais c'est un roman. Un roman, c'est de la fiction. Comment il pourrait...
Sa voix monta soudain en un mugissement de damné.
Roland y vit une ressemblance avec les voix qui montaient des ténèbres, et un frisson le parcourut.
« Bon Dieu, je suis une personne réelle !»«
Voilà le passage où le vampire brise votre croix, » intervint Jake. « Enfin réuni, » dit Barlow le sourire aux lèvres. Il avait un visage fort et intelligent, d'une beauté aiguë et menaçante. Pourtant, quand la lumière changea, il lui parut
« Stop !»
dit Callahan d'un ton morne. « J'en ai le cœur brisé. »
Ça dit que son visage vous a rappelé le croque-mitaine qui vivait dans votre placard quand vous étiez gosse, monsieur Flip.
Callahan avait le visage tellement blafard qu'il avait l'air lui-même d'une victime de vampire.
« Je n'ai jamais parlé à personne de monsieur Flip, pas même à ma mère. Il ne peut pas se trouver dans ce livre. C'est tout bonnement impossible. »
« Il est pourtant là, »
dit simplement Jake.
« Mettons ça au clair, » suggéra Eddie. « Quand vous étiez gosse, il y avait un monsieur Flip, et c'est bien à lui que vous pensiez quand vous avez dû affronter ce vampire de type 1, ce Barlow. C'est exact ?»«
Oui, mais... »
Eddie se tourna vers le pistolero.
« Tu crois que tout ça nous rapproche de Susanna ?»«
Oui. » Nous avons atteint le cœur d'un grand mystère, peut-être du grand mystère. Je pense que la tour sombre est si proche qu'on pourrait la toucher. Et si la tour est proche, alors Susanna l'est aussi. Perdu dans son monde, Callahan feuilletait fiévreusement le livre.
« Et tu sais comment ouvrir cette porte ?»
demanda Eddie en la désignant du doigt.
« Oui, » dit Roland. « J'aurais besoin d'aide, mais je pense que les habitants de Calabrian Sturgis nous doivent bien un coup de main, non ?»
Eddie acquiesça. « D'accord. Alors je vais te dire une chose. Je suis presque certain d'avoir déjà vu le nom de Stephen King quelque part, au moins une fois. »«
Sur l'ardoise, »
dit Jake sans lever les yeux du livre.
« Ouais, je m'en souviens. C'était sur l'ardoise, la première fois qu'on est allé voir Adash. »
« Sur l'ardoise ?» demanda Roland en fronçant les sourcils.
« Sur l'ardoise de Tower ?»
confirma Eddie.
« Dans la vitrine, ça te revient ? Dans ce restaurant spirituel de quelque chose ?»
Roland hocha la tête.
« À mon tour de vous dire quelque chose, » dit Jake, en levant cette fois les yeux vers eux. « Le nom était bien là quand Eddie et moi on est allés à Adash. » Mais il n'y était pas la première fois que je suis entré dans cette librairie. La fois où Dipno a résolu l'énigme du fleuve, c'était un autre nom. Il a changé, comme le nom de l'auteur de Charlie le Chouchou.
Je ne peux pas être dans un livre, répétait Callahan. Je ne suis pas une fiction. Ou alors...
Si. Roland. C'était Eddie. Le pistolero se tourna vers lui.
Il faut que je la retrouve. Je me fous de ce qui est réel et de qui ne l'est pas. Je me fous de Calvin Tower, de Stephen King ou du pape. Parce que, pour ce qui est de la réalité, c'est elle que je veux, c'est tout. Il faut que je retrouve ma femme.
Sa voix se brisa.
Aide-moi, Roland.
Roland tendit le bras et prit le livre dans sa main gauche. De la droite, il toucha la porte. « Si elle est toujours vivante, pensa-t-il, si on peut la trouver, et si elle est redevenue elle-même, si et si et si. » Eddie prit le bras de Roland.
« S'il te plaît, je t'en prie, ne me force pas à tenter ça tout seul. Je l'aime tellement. » « Aide-moi à la retrouver !»
Roland sourit. Il eut l'air plus jeune. Son sourire parut illuminer toute la grotte de sa lumière. Tout le pouvoir ancestral d'Arthur l'aîné de la lignée d'Eld était dans ce sourire. Le pouvoir du blanc. « Oui, dit-il. On y va. »
Puis, comme pour braver l'obscurité de ce lieu de ténèbres, il répéta avec conviction. « Oui. » Bangor, Maine, 15 décembre 2002.